Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues et surtout chers amis, je tiens d'abord à remercier, à vous remercier tous, collègues et amis, réunis aujourd'hui ici avec nous pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance d'Émile Zola et aussi pour travailler sur le rapport texte-image dans l'œuvre de Zola. Zola aimait les réunions d'amis, il aimait à constituer une bande autour de lui. La bande à Zola ne s'était pas réunie depuis 1979 à Limoges, sous les auspices de notre ami Jean-Claude Cassin, dont je salue ici aujourd'hui la présence parmi nous. Il était temps que nous reprenions de bonnes et de saines habitudes. Bon, eh bien, bravo, nous sommes tous réunis à nouveau. Alors, je dois d'abord présenter quelques excuses pour des absences. Et, bon, d'abord, Henri Mitran. Bon, Henri Mitran, en fait, c'est une absence tout à fait momentanée. Actuellement, je pense qu'il doit rouler ses valises dans quelques couloirs d'aéroport parisien. Bon, il arrive de New York ce matin. Bon, et donc, il sera, je pense, très bientôt parmi nous. Absence d'autre part de l'Université de Genève, de Jean Starobinski d'une part, qui jusqu'à il y a 6 mois pensait être avec nous et qui a été retenu à Genève et qui me prie de vous apporter son amical salut. Ainsi que absence de l'Université de Genève de Michel Butor et de Lucien Dallenbach, pour la même raison d'ailleurs, eux deux pour la même raison, c'est parce qu'il y a en même temps un colloque sur Butor et avec Butor dans une université que de nombreux Zoliens connaissent bien, puisque c'est l'université de Kingston où travaille notre ami Clive Thompson, qui bien entendu ne peut pas être non plus avec nous. Enfin, absence de l'équipe canadienne, sauf évidemment le plus éminent d'entre eux, à savoir David Bagulin. Autrement, Bart Baker n'a pas pu venir, non plus qu'Owen Morgan, puisque Owen Morgan était à passer 6 mois en France très récemment. Et enfin, Dorothy Spears devait venir là et n'a pas pu venir, bon, pour des raisons familiales impératives en raison de la maladie de sa mère. Mais je ne voudrais pas terminer cette liste d'absents sans citer une absence bien plus définitive et bien plus cruelle pour nous, c'est celle de François-Émile Zola, disparu prématurément l'année dernière. Et je tiens à remercier publiquement Madame François-Émile Zola, d'une part, et Madame Brigitte-Émile Zola, pour l'aide qu'elles ont bien voulu nous apporter dans la préparation et de cette réunion et de l'exposition Zola photographe qui sera inaugurée cet après-midi, ce soir, à la mairie du 2e arrondissement. Je tiens aussi à les remercier pour l'autorisation qu'elles nous ont donnée de dédier notre colloque à la mémoire de François-Émile Zola, qui a consacré toutes ses années de retraite au classement, à la promotion et à l'étude des photographies d'Émile Zola. Bon, deuxième liste de remerciements, les remerciements à tous ceux, évidemment, qui nous ont permis d'organiser ce colloque, par leur patronage, d'une part, et par les subventions qu'ils ont bien voulu nous accorder. Je commencerai bien entendu par la Bibliothèque nationale, aujourd'hui ici représentée par son administrateur général, M. Leroy Ladurie, et par Mme Calu. Et le CNRS, et en particulier le département des sciences de l'homme et de la société, représenté par son directeur adjoint et notre ami Jean-Louis Lebrave, l'ITEM, représenté par son directeur Almoud Grésillon, la Société des études romantiques et du XIXe siècle, l'Université de la Sorbonne Nouvelle, le ministère des Affaires étrangères, la délégation Célébration nationale et l'association littéraire des amis d'Émile Zola. Je dois dire que rien, toutefois, n'aurait été possible sans le travail, disons, acharné et le dévouement d'une équipe aussi restreinte qu'efficace, composée par ordre alphabétique de Daniel Cousseau, de Nadine de Cuypère et de Colette Morin-Laborde. D'ailleurs, Daniel Cousseau, que vous connaissez tous et toutes, c'est à elle qu'il faudra vous adresser si vous avez des problèmes quelconques dans votre organisation et dans votre séjour. Je vous prie simplement de noter qu'il y a un petit changement au programme, que samedi soir à 18h, mais peut-être même à 17h45, à la place de la conférence de Chantal Morel, sera présenté le film La Terre, film d'Antoine, l'homme du théâtre libre qui a eu tant de relations avec Zola, film La Terre qui est inspiré évidemment du roman et qui constitue une adaptation du roman de Zola. Troisième point, pourquoi un colloque Zola en images ? Bon, eh bien, je crois que c'est pour marquer au sein de notre équipe, le Centre d'études sur Zola et le naturalisme, une nouvelle tâche, un chantier nouveau, celui de l'iconothèque Zola, de l'étude de la genèse iconographique, genèse d'un texte à partir d'images, genèse d'images à partir d'un texte. Je vous en reparlerai un peu plus longuement, bien sûr, ensuite. Toutefois, bien sûr, si c'est un travail important, il nous faut mener à bien un travail qui doit être terminé dans 4 ans environ, la fin de l'édition de la correspondance d'Émile Zola. Bon, je passe rapidement sur cette réalisation. Le tome 8 est pratiquement totalement bouclé et le tome 9 est en chantier. Mais cette édition n'aurait pas été possible, d'une part, sans le travail de l'équipe française, bon, et je cite bien sûr Colette Becker, Gina Gourdin-Servenière, Véronique Lavielle, Daniel Lenant de la Bibliothèque nationale conservateur du département des périodiques, Alain Pagès, Madeleine Rébériou, et évidemment le maître d'œuvre qu'était et qu'est toujours et que reste toujours Henri Mitran. Elle n'aurait pas été possible non plus cette édition sans la détermination sans faille du directeur de l'équipe canadienne, Bart Baker, et sans celle de son équipe. Elle n'aurait pas été possible sans l'appui du gouvernement fédéral canadien, en particulier l'appui du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui vient d'ailleurs, je vous l'annonce, de renouveler pour 5 ans les crédits à l'équipe de Toronto. C'est-à-dire que, de ce point de vue, si de notre côté il n'y a aucun problème au CNRS, bon, eh bien, l'édition doit être de la correspondance doit être bouclée dans environ 4 ans. Je crois qu'il s'agit là d'un très bel exemple de coopération internationale totalement réussie et dont réussie de bout en bout, à la fois bon, d'un point de vue des résultats, d'un point de vue de la méthode, et une telle coopération devrait sans aucun doute servir actuellement de modèle à bien des égards. Bon, j'en ai fini avec les hommages. Ce n'était pas là, croyez-le, des hommages obligés. J'étais d'une grande sincérité en les faisant. Alors, je voudrais maintenant vous parler très rapidement l'iconothèque, en essayant de définir ce que nous faisons et en vous donnant quelques exemples. Bon, je vous prie d'excuser un discours qui ne sera peut-être pas exactement celui que j'aurais voulu qu'il fût, c'est-à-dire bon, que pris par certains travaux, en particulier par des dates limites d'éditeurs, d'autre part par l'organisation du colloque, je n'ai peut-être pas autant réfléchi, aussi bien réfléchi que je l'aurais voulu. Bon, alors donc, je vous prie d'excuser un discours qui sera peut-être un petit peu chaotique et peu pertinent. Alors, ça se verra d'autant plus que j'ai au moins, pour une certaine part, un point commun avec Zola. Je regardais, il n'y a pas très longtemps, la page d'interview pour une suite accordée par Zola pour la Revue Illustrée de 1892. Et à la question « Le don de la nature que je voudrais avoir », il a répondu « L'éloquence ». Bon, moi aussi, je voudrais bien avoir l'éloquence et je ne l'ai pas. Je signale d'ailleurs aux généticiens qu'à cette occasion, j'ai découvert qu'avant d'écrire l'éloquence, Zola avait écrit des ailes. Ce sont des ailes qu'il aurait voulu avoir et qu'il l'a biffé. très soigneusement avant d'ajouter l'éloquence. Bien, alors, d'abord, en quoi consiste cette iconothèque ? Eh bien, cette iconothèque, au fond, c'est une banque de données iconographiques qui a pour but d'identifier, d'inventorier, de recenser, d'étudier, bon, et évidemment de reproduire, avec l'accord des musées ou des propriétaires collectionneurs, les documents iconographiques, voire sonographiques, concernant, d'une part, Zola, et d'autre part, son œuvre. Elle n'a en rien pour but, bien sûr, de collectionner des documents originaux eux-mêmes. Notre travail est évidemment un travail d'inventaire, de repérage, et notre activité ne s'apparente en rien à une activité de type muséographique, je tiens à le préciser. Dans l'état actuel de notre travail, de notre réflexion, ont été considérés comme intéressants l'iconothèque zolienne, les documents de ce type. D'une part, tous les tableaux concernant Zola et l'œuvre de Zola. Les tableaux dont Zola a rendu compte, dont il a parlé, qu'il a aimé ou qu'il a possédé. La statuaire concernant Zola ou son œuvre. Tous les documents iconographiques, estampes, etc. concernant son œuvre parus dans la presse de son vivant ou après sa mort, et évidemment en particulier, et là nous avons un champ d'investigation énorme et remarquable, toutes les caricatures. Toutes les illustrations de romans la plupart des romans de Zola ont été illustrés. Tous les documents iconographiques concernant le théâtre zolien, affiches, décors, costumes, comédiens, programmes, entre autres. Ensuite, toutes les photographies faites par Zola ou toutes les photographies qui ont pour objet Zola et son œuvre. Toutes les affiches éditées pour assurer la réclame des œuvres de Zola, et d'ailleurs, il y a un an et demi, avait été exposée toute une série d'affiches à la Bibliothèque nationale avec le très beau titre « Les mystères du rez-de-chaussée », c'est-à-dire du feuilleton, et était en place précisément et était présentée par les organisateurs et les commissaires de l'exposition une série d'affiches concernant les romans zoliens. Bon, les cartes postales concernant Zola et son œuvre, et Naomi Shore nous en parlera, tous les éléments volumes du type assiette, statuette, médaille, éventail. Bon, par exemple, j'ai eu l'occasion il y a 2 ans dans l'exposition présentée par Norman Kliblat à New York de voir qu'il y avait au moment de l'affaire Dreyfus un éventail Zola. Donc tous les éléments, tous ces éléments volumes. Enfin, évidemment, tous les éléments concernant l'affaire Dreyfus. Bon, et là, c'est un champ d'investigation énorme. Enfin, tous les films inspirés par l'existence, il y a le très beau film de Jean Vidal, et les films inspirés par l'œuvre de Zola, bon, et nous sommes en train d'établir une filmographie de tous les films inspirés de l'œuvre de Zola. Bon, tous les films ou évidemment tous les éléments sonographiques concernant Zola et son œuvre. Enfin, bien sûr, en dehors de la bibliographie concernant le rapport texte-image, tous les textes de Zola concernant les images, textes romanesques ou textes théoriques, et textes d'études concernant les rapports de Zola et de l'image. Une iconothèque zolienne ne peut pas repérer, inventorier, classer et surtout étudier ce type de texte. Bon, c'est évidemment un chantier énorme qui s'ouvre devant nous. Bon, après tout, nous avons des descendants, espérons qu'ils le continueront. Mais cette proposition qui a été faite assez récemment par Henri Mitran, en fait, est une proposition qui avait été faite en 1908 déjà par John Grant Carteret dans l'ouvrage qui s'appelle « Zola en images » et auquel d'ailleurs le titre du colloque rend hommage, et qui écrivait « Quelle iconographie, le jour où l'on voudra réunir ensemble non seulement tout ce qui concerne l'homme, mais encore tout ce qui constitue son œuvre ». Cela, ça date de 1908. Nous n'avons commencé qu'en 1988. Bon, eh bien, espérons qu'en 2098, tout sera terminé. Bon, je ne souhaite pas vous présenter ici et maintenant un exposé des motifs explicitant le bien fondé d'une iconothèque Zola. Bon, ça serait un peu trop long. Mais je ne voudrais pas, toutefois, ne pas vous en exposer très schématiquement les structures. La quête et l'étude des divers icônes zoliens peuvent se subdiviser en deux parties. Bon, il est évident que nous avons des classements par l'informatisation, qui sont des classements qui peuvent être des classements thématiques, qui peuvent être des classements chronologiques, qui peuvent être des classements, le classement du médium, c'est-à-dire du support de l'image. Bon, il y a un autre classement qui concerne le rapport de Zola à l'image. Il y a des images que nous appellerons, à la suite d'Henri Mitran et de son article fondateur paru en 1968, « Le regard de Zola ». Comment Zola voit-il les images? Où voit-il le monde? À travers les images, et je précise bien « image » ici au sens iconique du terme, bien sûr, et non au sens rhétorique du terme, il y a un glissement très dangereux à ne pas commettre. Notre étude ici, dans le regard de Zola, se centre évidemment d'une part sur la critique d'art de Zola, l'ensemble des écrits sur l'art, les jugements à propos des tableaux ou des images qu'il a regardés tout au long de sa vie et qu'il a jugés tout au long de sa vie. Elle prend aussi pour cible les photographies auxquelles il a consacré beaucoup de temps, avec une infinie passion dans les dernières années de son existence. Une fois défini le regard porté par Zola sur les images et sur le monde, et seulement après, il convient de définir les rapports du visible au lisible, et dans la peinture, et dans le discours naturaliste. Dans la plupart des cas, ces images sont des images générantes, c'est-à-dire qu'elles génèrent un texte. Les écrits sur l'art, par exemple, des commentaires critiques, ou, dans les textes romanesques, les descriptions. Ou qu'elle génère aussi un autre icône, par exemple la photographie. L'autre part, l'autre versant iconologique à étudier, c'est évidemment le regard sur Zola. C'est l'étude des diverses manières dont Zola a été vu, traduit, compris, senti. Et là encore, je cite John Grand Carteret. C'est évidemment le regard porté par les contemporains sur un des écrivains les plus vilipendés, les plus caricaturés, les plus brocardés dans les trois dernières décennies du XIXe siècle, depuis les portraits charges contre l'école nanaturaliste et les leçons nanatomiques d'après le cours du citoyen Émile Zola, jusqu'aux plus infâmes caricatures publiées contre lui dans l'affaire Dreyfus, en particulier les dessins scatologiques dont, je crois, Norman Kliblat nous parlera demain vendredi. Il m'étonne toujours, d'ailleurs, que la plupart des travaux qui portent sur la réception du réalisme et du naturalisme ignorent les informations apportées par les caricaturistes. Bon, où elles ne servent, les caricatures ne servent que très vaguement, d'apport à quelques affirmations. Pourtant, souvent, ces caricatures en disent au moins aussi long que bien des pages de critiques littéraires, et il faudrait s'aviser de voir comment et pourquoi, au cours de l'affaire Dreyfus, les violences iconographiques porte sur, ou plutôt contre, les Rougon-Macquart presque autant que contre le défenseur de Dreyfus. Ni L'Assommoir, édité en 1877, ni Nana en 1880, ni Germinal en 1885, n'étaient vraiment oubliés en 1898-1899 au cours des pires violences anti-dreyfusables. Nous nous sommes particulièrement intéressés, depuis un an et demi que fonctionne notre iconothèque, aux illustrations des romans de Zola jusqu'en 1907-1908, c'est-à-dire la parution, après sa mort, de l'édition Névariétures. Le roman illustré, en dehors des facilités de réunion du corpus, bien sûr, nous a paru un des meilleurs cas où les deux codes, l'écriture et la gravure, fonctionnaient concomitamment concurrentiellement, même si certains prétendent que la prééminence de l'écrit sur l'image est quasi constante. Bon, il est exact que l'image est génétiquement seconde par rapport au texte et qu'une de ses fonctions est d'expliquer le texte, c'est une fonction didactique, encyclopédique, de donner un supplément ou de prétendre donner un supplément d'informations indispensables pour comprendre l'œuvre et faire comprendre les dessins du romancier. Une fonction donc didactique, mais soulevant, n'a-t-elle pas aussi et surtout pour finalité, ou tout au moins pour effet, d'imposer une lecture du texte, ne serait-ce déjà qu'en proposant un découpage peut-être cohérent, mais souvent partiel et donc partial du schéma narratif. Je souhaiterais ce matin vous proposer rapidement une étude d'un point particulier, l'espace narratif dans le texte romanesque et dans son illustration. J'ai choisi de montrer quel ordonnancement iconologique de l'espace un graveur peu connu a donné dans l'illustration de la bête humaine appartenant donc à cette édition Né Variétur parue en 1907. Je vais essayer de passer les... Ah oui, ça c'est les mystères de la technique. Je vous assure que j'ai mis des images hein, dans le carrousel. Hein. Je vous le promets. Hein. Ça nous rappelle de bons souvenirs. L'autre jour, nous avons passé ici un film. Et le son ne sortait qu'à l'intérieur de la cabine et pas dans la salle. Ah bon, bon. Je vous prie, Daniel, pardon. Alors, je vous prie de m'excuser. Hein, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Daniel Cousseau qui est là. En cas de difficulté, vous vous ralliez à son panache blond. Vous verrez, vous aurez tout à y gagner. Ah, mais moi, je... Alors, si je bloque les choses, non. Comment? Ah non, il ne faut pas que je touche. Bon, écoutez, je vais peut-être parler un peu et puis je vous passerai les images après. Ce qu'il y a, c'est que je ne vois plus grand-chose. Bon, ça ne fait rien. Bon, alors, disons que nous devons relever l'importance donnée aux lignes dans l'illustration des scènes romanesques essentielles et pour rendre au modèle spatial, si vous remettez la lumière, ça irait quand même mieux. Hein. Parce que j'arrive vraiment pas à lire. Ah, merci. Alors donc, pour donner au modèle spatial central de narration, le roman, en tant qu'espace textuel, c'est déjà un circuit, puisque Zola, dès le dossier préparatoire, raconte l'histoire d'une grande ligne entre deux gares. Le cadre du roman est réduit à sa plus simple expression. Je cite, « Je voudrais garder pendant tout le roman la grande circulation d'une ligne comme accompagnement continu », se propose Zola dans l'ébauche. Ainsi, le chapitre 1 de La bête humaine se termine par le départ du train de la gare Saint-Lazare en direction du Havre. Il disparut, c'est la phrase conclusive même du chapitre. Le 12e et dernier chapitre raconte l'histoire du train fou après la disparition et la mort de Jacques Lantier et de Pequeux entre le Havre et en direction de Paris. Et la phrase quasi conclusive du roman, l'excipit, disparu, il roulait dans la nuit noire, on ne savait où, là-bas. Cet espace hyper réglé de la ligne est aussi, et c'est ce qui me semble tout à fait intéressant, le centre de l'illustration. Il constitue le schéma référentiel de la première et de la dernière gravure. Il accompagne, par exemple, symboliquement, le plaisir que savourent dans un dépôt les amants Séverine et Jacques Lantier. Enfin, selon la méthode à carreaux bien connue des historiens de l'art du XIXe siècle, les autres scènes sont toutes construites sur un schéma linéaire rigoureux, en particulier celle du meurtre du président Grandmorin, meurtre qui, évidemment, est commis dans un wagon sur la ligne elle-même. Ah oui, elles sont à l'envers. Non, elles sont à l'envers, hein. Vous avez vu, oui. Ah bon. Alors, la seule gravure où la ligne n'apparaît pas, c'est la sortie de ligne, si l'on peut dire, qui renvoie bien entendu à la catastrophe ferroviaire. La structure de la ligne détermine donc et la structure narrative et les descriptions du roman. Elle en détermine aussi l'illustration. J'espère que nous réussirons à le voir. Enfin, l'illustration de la maison du garde-barrière montre un circuit ferroviaire à deux voies. Les trains, comme les lecteurs, parcourent, car il s'agit là d'un point de passage obligé, qui sera même, lors de l'accident provoqué par Flore, un point d'arrêt. Cette double ligne symbolise les voyages doubles, aller et retour des personnages, ce que souligne la parfaite horizontalité des rails dans une représentation parfaitement homologue au symbole de la double circulation et de la double vectorisation. Par contre, la catastrophe du chapitre final est illustrée. En dehors d'une représentation un peu maladroite et d'un allégorisme primaire, bon, il y a la mort une représentation allégorique de la mort qui surplombe le train. La catastrophe donc est représentée par une seule ligne de voie ferrée, c'est-à-dire qu'elle ne suppose plus de double circulation, c'est-à-dire qu'elle ne prévoit pas de retour, il y a une vectorisation simple, et à l'horizontalité, dans la première gravure de la circulation, est substituer ici l'obliquité et une inclinaison entraîne le train fou, la bête aveugle et sourde, vers l'abîme, c'est-à-dire vers la mort. Schéma narratif et schéma spatial s'achèvent de concert. Nous pouvons constater, j'espère, qu'existe une homologie certaine entre le système textuel et le système iconique. Si nous envisageons ce dernier, à partir des trois codes proposés par Jean-Marie Floch comme constitutifs des langages planaires, bon, ce qu'il appelle langage planaire, c'est le langage bidimensionnel, c'est-à-dire celui de la peinture, de la gravure, etc., le code topologique, celui des formes, celui de la géométrie, des lignes, le code eidétique, c'est-à-dire celui des figures investies, et enfin le code chromatique, nous constatons, malgré la différence des codes, une identité des contenus entre la configuration topographique textuelle et la configuration topographique iconique s'établit alors un rapport d'interesthéticité à propos de l'espace représenté et de la représentation de l'espace, particulièrement significatif dans la bête humaine. Ou, comme le constatait récemment au séminaire Zola Henri Mitran, spatialement, ce texte est un roman épure, Toute la structure du roman repose sur la structure de la ligne et l'inspiration naturaliste se fait ici particulièrement minimaliste et dans le texte et dans son illustration. Voilà. Alors voici, vous voyez la première des gravures, c'est-à-dire la maison de la barrière, de la garde barrière des Nisards. Voilà. Bon, et avec, vous voyez ce dont je parlais tout à l'heure, la double ligne qui implique la circulation, et vous voyez comment cette gravure ici est constituée uniquement sur les lignes horizontales du rail, du fil, c'est-à-dire au fond des moyens de communication. Bon, qui renvoie d'ailleurs au toit, qui renvoie à tout ce qui est le sol, et d'autre part des lignes verticales qui sont celles du puits, qui sont celles de l'autre barrière, de la porte, etc. Alors elle est à l'envers. Vous voyez comment ici. Dans le dépôt où Séverine et Jacques Lantier font l'amour, bon, là encore, bon, la ligne bon, qui part de la porte et qui se trouve dans le prolongement bon, en renvoie bien sûr à toujours ce schéma linéaire bon, que l'on trouve à la fois dans le système des fenêtres, dans le système des lucarnes et même dans le système de la pelle et du charbon. Là encore, découverte, et on voit très bien dans la représentation du sol le système de la méthode à carreaux, et bien sûr, il n'y a pas ici de représentation de ligne. Voyez là encore, lors du meurtre de Grand Morin par Roubaud et par Séverine, comment là à nouveau les lignes de cette méthode à carreaux constituent le schéma de construction essentiel de la gravure. Voilà la catastrophe, et il est bien évident que ici la ligne disparaît pratiquement totalement, puisque finalement le train est fait pour être sur la ligne. Et enfin, bon alors, décidément c'est impossible. Voyez, essayez de vous la représenter. Vous pourriez la remettre à l'endroit, s'il vous plaît, merci. Ça va pas, hein? Désolé. Ah, il va peut-être la tourner dans l'autre sens, cette fois. Voilà. La mettre au point, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ouf. Bon, alors, voyez ce que je vous indiquais à propos du rail. Bon, alors, il y a en dehors de l'allégorisme de la mort. Hein, voyez comment, cette fois, au lieu d'une ligne qui soit une ligne droite, vous avez ici l'oblique qui envoie quasi hors du champ et qui précipite vers le bas. C'est pour cette raison d'ailleurs que je souhaitais que vous voyez l'ensemble de l'image et que vous la voyez dans le bon sens. Bon, vous pourriez nous redonner la lumière, s'il vous plaît, merci. Bon, je me presse. Et il est évident, et il est évidemment inutile de rappeler aujourd'hui, bon, devant vous, le goût, la passion même de Zola pour les images, de rappeler sa longue carrière de critique d'art d'inventeur de Manet, dont de nombre d'autres impressionnistes. Zola, en effet, savait voir, aimait à regarder, et le regard de Zola fut fondamentalement le regard du peintre paysagiste, comme le soulignait Henri Mitran dans l'article déjà cité sur le regard d'Émile Zola. Il convient d'accorder une importance primordiale, évidemment, à la formation esthétique et picturale de Zola, et comme il le souligne lui-même dans le salon de 1868, le paysage est devenu un genre majeur où il ne prétend plus avoir simple valeur d'imitation et de décor, mais où il devient l'élément constituant même du tableau, ce qu'André Malraux a heureusement dénommé l'annexion du monde par la peinture. L'espace paysagiste se construit dans le tableau, quasi sans référence au modèle externe. Bon. Le regard de Zola lui permet sans aucun doute de modéliser l'espace. Et comme le souligne Jean Starobinski dans son essai « L'œil vivant », regarder, c'est pénétrer, c'est prendre, c'est donc aussi comprendre, et voilà qui permet mieux à la personnalité du voyeur de s'exprimer, car le regard permet toutes les remises en cause de la réalité du monde et des autres, ainsi que de leur statut. Le regard brut ne conduit pas à une signification latente, mais amène à ce qui est le plus proche du regardeur, les formes. Le regard aigu de Zola, quand il se porte sur les toiles de Manet ou sur les fresques de Puvis-de-Chavannes, reste d'abord et avant tout sensible aux formes. Il saisit des éléments formels, ceux d'une nouvelle grammaire visuelle. Bon, je n'ai pas le temps, mais je citerai ce qu'il écrit à propos d'Olympia, qui est au fond, pour lui, Olympia, c'est la construction par des taches de couleurs. Le regard conduit d'abord et essentiellement à l'expérience du sensible, et le discours zolien se fonde sur un regard. C'est d'ailleurs ce compte-rendu du premier regard que nous avons très souvent dans le dossier préparatoire. Et j'avais envisagé de parler du portrait, je le laisserai. Je voudrais simplement commenter rapidement l'image que nous avons choisie, à la fois pour le colloque et pour l'exposition Zola photographe. Bon, qui représente, bon, je crois qu'il vaut mieux que je n'utilise pas la technique parce que ça ira, c'est vraiment trop difficile et trop long. Bon, qui représente
Il faudrait à l'avenir que la personne qui veut faire des projections s'entende quand même au préalable avec le.
Et il s'agit donc du Champ de Mars et de l'exposition universelle de 1900, vu du prisme du Trocadéro. Or, ce que nous avons tous, c'est le goût de Zola pour la modernité urbanistique, architecturale, décorative. Aussi, c'est ce pari-là auquel il va se consacrer. Bon, vous connaissez tous, bien sûr, l'extraordinaire reportage sur l'exposition de 1900. Bon, et il dit, il y a un bon, superbe interview de lui dans Le Gaulois du dimanche, paru en 1897, il était interviewé par le journaliste Marcel Hutin, où il conclut « Pleurer sur toutes les transformations, c'est pleurer sur le progrès ». Bon, or, il est intéressant de voir qu'en fait, ce paysage urbain, c'est un paysage que Zola poursuit depuis fort longtemps. Il le connaît depuis le tableau de Manet de 1868, qui s'appelle l'exposition universelle de 1867, où Manet représentait l'exposition universelle de 1867, qui avait lieu précisément sur le Champ de Mars. Et d'autre part, un autre tableau de Berthe Morisot, qu'il connaissait aussi, qui s'appelle « Vue de Paris, des hauteurs du Trocadéro » en 1872. Je précise enfin que ce paysage était un paysage recommandé par tous les Paris guides de l'époque comme un des grands paysages. Enfin, il décrivit aussi ce paysage constamment dans les 5 derniers chapitres d'une page d'amour qui se déroule à Passy, et il y a les transformations du paysage, mais vous savez, 5 parties hein, et 5 chapitres terminaux sont consacrés précisément à cette vue à partir du Trocadéro. Or, ce qui est assez frappant de voir, c'est que Zola, dans la photographie, s'intéresse d'abord aux lignes, construit, comme dans ses romans, un espace géométrique. Il en saisit la structure et l'architecture de manière globale. Bon, il utilise au fond le lieu, il utilise très habilement le lieu, pour construire tout un jeu de lignes sur les droites verticales. Bon, vous voyez comment vous avez des droites verticales qui renvoient bien sûr d'une part à la traversée du Champ de Mars, aux deux cheminées de la galerie des machines qui sont au fond, et à tous les immeubles, à tous les clochers et à tous les minarets qui peuplaient l'exposition. Il y a d'autre part Et le pont d'Iéna d'une part et le Champ de Mars se prolongent donc dans les lignes ascendantes de la tour Eiffel. D'autre part, il y a les lignes droites horizontales qu'il construit aussi. C'est d'une part, bien sûr, la Seine, c'est d'autre part les deux étages de la tour Eiffel, c'est enfin tout à fait au fond la galerie des machines construite depuis l'exposition de 1878 et qui barrait complètement l'horizon. Il y a donc, vous voyez, une espèce de progression de la construction des lignes droites horizontales. Enfin, il y joint les lignes circulaires ou les lignes semi-circulaires de l'arche sur laquelle repose l'étage de la tour Eiffel, du premier des bâtiments de l'exposition qui était ici la partie de l'exposition, disons, coloniale, de tous les dômes qui sont ici. Au fond, Zola allie ici, saisit avec finesse les divers motifs architecturaux et urbains qui construisent le paysage. Une étude perspective, d'ailleurs, tout à fait étonnante, accentue sans doute cette vision. Puisque, vous voyez, il saisit le paysage en plongée à partir en haut du Trocadéro, mais en fait, étant donné le système de la perspective, on a l'impression d'une contre-plongée, de la montée vers l'horizon de Paris. Ce qui explique d'ailleurs, au fond presque, le fait qu'en dehors de raisons techniques, la tour Eiffel soit elle-même tronquée. Dans l'axe même de la prise de vue, au fond, elle donne une impression d'ouverture et de clôture. Et il y a, dans le dossier préparatoire d'une page d'amour, précisément, le commentaire textuel de cette gravure, vue de Paris, les deux bonnets pointus de Sainte-Clotilde qui se trouvent à l'extrême gauche, les deux tours de Saint-Sulpice derrière les Invalides, Notre-Dame, des fumées grises s'envolant de Paris par un temps couvert, les Tuileries et le Louvre en face avec des arbres, les passants et les voitures, des fourmis en bas sur le quai, puis au loin on ne les distingue même plus, par un temps gris, les maisons sont toutes petites et se perdent au loin, tout est noir, Paris ramassé, la vallée de la Seine au milieu. Bon, c'est donc, au fond, ce que Zola écrivait au moment de la préparation de ça. Au fond, ce que l'on peut dire des descriptions d'une page d'amour, cette analyse des motifs accorde beaucoup plus d'importance à la configuration des lignes, c'est-à-dire à une forme d'abstraction, plutôt qu'au paysage lui-même. Au fond, je crois que Zola, et là, c'est, je pense, en ce sens qu'il fut un photographe amateur remarquable, construit beaucoup plus un paysage qu'il ne le reproduit. Il s'intéresse beaucoup plus par le système du cadrage et de l'angle de prise de vue, il s'intéresse plus à la structure abstraite du paysage qu'au paysage lui-même. Bon, ce qui n'empêche, bien sûr, hein, que les clichés sur l'exposition universelle ont sans aucun doute une véritable valeur de reportage, une valeur de documentaire irremplaçable. Mais au fond, en fait, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus cette construction. Ce qu'au fond, je crois, on peut noter dans la phrase où il écrivait, c'est, ajoute-t-il, à propos de la photographie, une matérialisation à outrance. Peut-être pourrait-on dire que Zola, ici, s'intéresse plus à la forme qu'au sens. Bon, alors, il est pour moi maintenant tout à fait temps de conclure pour que je laisse ensuite la parole à David Bagulet. Et toute ma conclusion se doit d'être porteuse d'espoir. Pour d'une part, la réussite de notre colloque, bien sûr, et aussi pour la réussite de l'iconothèque Zola, et pourquoi pas, d'ailleurs, même une extension de ce type de travail à d'autres écrivains ou à d'autres artistes. Je pense, bien sûr, à Balzac, à Victor Hugo, à Flaubert, ou à Wagner, au XIXe siècle, ou à Proust, par exemple, plus tard. Henri Mitran, pardon de vous citer à nouveau Henri pour conclure, dans l'avant-propos d'Images d'enquête, l'album d'images sur l'œuvre de Zola, appelle de ses voeux une histoire iconographique de la littérature, en affirmant très haut que le roman réaliste et naturaliste en particulier ne se conçoit guère sans son alliance consubstantielle avec la photographie, la peinture de paysages et de portraits, la gravure, qui ne sont d'ailleurs pas plus que lui une reproduction neutre et innocente du réel. La constitution d'une banque de données iconographiques sur Zola et son œuvre est bien la condition nécessaire, indispensable même pour faire aboutir cette réflexion nouvelle. Elle nous permet de nous mettre en accord avec le souhait programmatique que, dans une lettre, Zola confiait à son correspondant Henri Ernst, voir, toujours mieux voir, dans tous les langages, fût-ce sous les colibés et les injures, prouver que l'on voit mieux. Je vous remercie.
Chers collègues, je vous remercie et effectivement vous répondez à ce vieux problème un peu banal de la réalité ou de la reconstruction de la réalité, mais vous y répondez en vertu d'une analyse, me semble-t-il, très novatrice pour moi qui suis profane. Peut-être encore une fois conviendrait-il que les communicants s'entendent avec la personne qui s'occupe de l'iconographie. L'orateur suivant, c'est monsieur ou madame, je ne sais pas, Bagulet.
David Bagulet.
David Bagulet, iconographie de l'Assommoir.
Voilà aussi. Monsieur le Président, si vous étiez un zolien tout à fait émérite, vous sauriez d'ailleurs que Bagulet n'est plus un nom propre, mais un nom commun. Puisque tous les zoliens consultent ce qu'on appelle le Bagulet, qui est le répertoire bibliographique de tous les textes publiés par Émile Zola et d'autre part de toute la critique faite sur les œuvres de Zola. Et je pense qu'on peut dire que c'est un ouvrage complètement exhaustif depuis lequel est le début David, 1800, combien, 64 jusqu'à 1990, ce qui doit apparaître dans le dernier numéro des cahiers naturalistes. Merci.